Nous sommes guéris. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on a pu trouver de mensonges. Par ses blessures, nous sommes guéris. Insulté sans rendre l'insulte, maltraité sans proférer de menaces, il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'était nos péchés qu'il portait dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris.
Merci d'être présent ce matin. Mon objectif, c'est de nous aider les uns les autres à bien percevoir la cohérence et l'unité des liturgies du Triduum Pascal. Alors, ça passera en particulier par une étude un peu plus approfondie de ces moments que nous vivons, mais surtout l'occasion de souligner que, et c'est quelque chose que je répéterai à plusieurs reprises et que je dis déjà maintenant, le fait que le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus ne font qu'un seul et même acte. C'est la même réalité qui se déploie pour nous sur ces 3 jours, à partir du jeudi saint au soir jusqu'à la nuit de Pâques. Si vous regardez un peu plus précisément d'ailleurs ce créneau horaire, vous allez me dire, mais en fait, Père, ça ne fait pas 3 jours. On commence le jeudi et on finit le samedi. Et donc, déjà, là, c'est bizarre. Alors, simplement, pour vous dire que, vous savez, il y a 2 manières de compter les intervalles de temps. Donc, soit vous pouvez les compter avec un des crochets ouverts, un intervalle ouvert, soit fermé. Et donc, le 3e jour, effectivement, c'est le matin de Pâques, mais donc, ce que nous célébrons dans le Triduum, c'est ce que nous commençons à vivre le jeudi saint au soir, que nous continuons à contempler avec le vendredi saint, l'office de la Passion et de la mort du Seigneur, et puis la vigile pascale, qui débouche dans le mystère de Pâques. Peut-être vous rappelez-vous que, à l'occasion du confinement, il nous avait été demandé de célébrer la vigile pascale le dimanche matin très tôt. Et donc, on avait, pour l'occasion, pas l'habitude, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais on avait pris la décision donc de célébrer la vigile pascale à partir de 6 heures du matin. Et finalement, c'est pas mal aussi. Parce que quand on célèbre la vigile pascale le dimanche matin à 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on termine la vigile pascale, le soleil se lève et ça donne tout son sens au mystère de la résurrection du Christ. Voilà. Donc, ces trois jours ne font qu'un seul jour, ne font qu'un seul acte. Et cet acte, c'est la mort et la résurrection de Jésus, qui évidemment vont ensemble. Parce que si vous n'avez que la mort, ben c'est dramatique, et vous ne pouvez pas voir la résurrection de Jésus si ça n'est pas d'abord passé par le mystère de sa mort. Donc, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça que nous vivons quelque chose d'assez unique. Il faut bien le reconnaître. Je vais vous dire aussi quelque chose maintenant qui est fondamental pour comprendre le sens de la liturgie. Je vais prendre un exemple décalé. Décalé au sens où je vais prendre un exemple pour un autre moment de l'année liturgique. Quand nous célébrons Noël, est-ce que nous célébrons l'anniversaire de la naissance de Jésus ou bien la naissance de Jésus? Alors j'aime bien quand les gens peuvent répondre parce que les avis sont partagés. En fait, j'espère que nous avons tous conscience qu'à Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, pas l'anniversaire de sa naissance. Jésus n'a pas 2023 ans maintenant. Et quand je célèbre Noël, je suis rendu présent par la liturgie au mystère qui est célébré, et donc je suis rendu présent de ce qui se passe à Bethléem au moment de la naissance. C'est tellement vrai d'ailleurs, si vous y réfléchissez, c'est tellement vrai que lorsque je célèbre Noël, eh bien je vais chanter « Il est né le divin enfant ». Voilà, très bien. Et d'autre part, vous remarquerez aussi que on dépose un enfant Jésus dans la crèche. On dépose un enfant Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vient de naître. Il vient de naître. La liturgie, ce n'est pas une commémoration. Vous voyez, il y a les commémorations du 8 mai, du 11 novembre. On se rappelle qu'il s'est passé quelque chose le 11 novembre 1918. On se rappelle qu'il s'est passé quelque chose le 8 mai 1945. Oui, d'accord. Mais la liturgie, ça n'est certainement pas une commémoration. C'est une actualisation. Nous sommes rendus présents au mystère que nous célébrons. Je le dis tout de suite parce que c'est logique que je vous le dise maintenant. Regardez le Jeudi Saint. Vous êtes probablement allé à l'office, à la Sainte Cène du Seigneur. Et là, vous avez entendu quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Puisque les prêtres, le président de l'Assemblée en particulier, notre curé hier soir, vous dit, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, virgule, c'est-à-dire aujourd'hui, virgule, il prit le pain. Excusez-moi, mais je crois parler assez correctement le français. Je crois qu'on peut difficilement dire, parler en même temps au présent et au passé. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi dit-on ça? Pourquoi le prêtre dit cela? Eh bien parce que c'est la réalité de la liturgie. C'est la réalité de la liturgie. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans la célébration des jours saints, c'est que nous allons marcher au rythme du Christ. Nous marchons en tenant compte de la chronologie de ce qui s'est accompli. Par exemple, nous allons célébrer la messe du Jeudi Saint. La messe du Jeudi Saint. La première messe. C'est comme si on recommençait tout à zéro. La première messe. Et nous célébrons ce qu'a fait Jésus au cours de ce repas pascal qui, il faut bien le reconnaître, est un peu particulier. Pour dire la vérité, frères et sœurs, Jésus n'a pas célébré la messe comme nous la célébrons aujourd'hui, hein. Il n'a pas du tout fait cela. Jésus a célébré le mystère pascal, le repas pascal avec ses apôtres. Et puis, au cours de ce repas, il a fait quelque chose qui était absolument nouveau, qui n'avait jamais été fait. Il a pris le pain, du pain sans levain, puisque c'est le pain qu'on utilisait pour le repas pascal. Il a pris le pain et il a dit, il l'a béni et il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Vous imaginez bien que les apôtres ont dû tomber des nues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est mon corps livré pour vous. Et puis ensuite, il prend la coupe qu'on bénissait au cours du repas pascal, et cette coupe, Jésus l'a fait passer à ses disciples en disant « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance. » Très bien. Là aussi, les apôtres ont dû se demander ce qui se passait quand même. Hein. Pourquoi Jésus a fait cela? Parce que le Jeudi Saint manifeste déjà l'offrande que Jésus fait de sa vie. En fait, le Jeudi Saint, Jésus célèbre le mystère pascal avec ses apôtres. C'est quoi le mystère pascal pour un juif? Eh bien, ça rappelle évidemment la sortie d'Égypte. Ça rappelle évidemment le fait que Dieu a sauvé son peuple en permettant qu'il sorte sans être menacé par la mort. Comment a-t-il été sauvé, le peuple? Nous l'avons entendu hier dans le livre de l'Exode. Le Jeudi Saint, précisément. Qu'est-ce qu'on nous a lu en première lecture? Le passage du livre de l'Exode qui explique ce que les Juifs doivent faire parce qu'ils doivent rappeler ce moment où les Hébreux ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise. Et leur départ, comment s'est-il fait? Ils ont fait cuire un agneau. Très bien. Ils ont fait cuire la pâte du pain. Mais comme on les a prévenus assez tard, ils n'ont pas pu utiliser du pain qui avait levé avec du levain. Donc, ils ont pris du pain sans levain. Voilà. Et ils ont mangé ça en toute hâte, debout, avec la ceinture au rein. Avouez que pour un repas, c'est particulier, hein. Et comment ont-ils pu sortir? Comment ont-ils pu sortir de leur maison? Ben, parce que l'ange exterminateur ne les a pas tués. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ange leur avait dit de mettre sur les linteaux des portes le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui avait été égorgé pour être ensuite cuit, le sang de l'agneau a été mis sur le linteau des portes. Et en faisant cela, quand l'ange exterminateur est passé, il a évité les maisons des Hébreux. Mais en revanche, il est allé chez Pharaon, le premier-né de Pharaon est mort, il est passé chez toutes les familles égyptiennes, et les premiers-nés sont morts. Et donc chaque année, les Juifs reproduisent cela, la fête de Pessah, Pâques. Et en faisant cela, eh bien, ils font un repas qui a lieu à la maison. Vous savez que les Juifs n'ont pas beaucoup de liturgie, et pour cause, n'ont pas beaucoup de liturgie dans un lieu particulier, tout simplement parce que déjà à l'époque, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de liturgies qui avaient lieu à la maison. Par exemple, le Shabbat se célébrait à la maison. Qu'est-ce qui se célébrait en dehors de la maison au Temple de Jérusalem? C'était les sacrifices d'animaux. Mais sinon, le repas pascal, évidemment, on le prenait à la maison. Donc c'est un repas familial. Donc Jésus, quand il célèbre la Pâque avec ses disciples, fait un repas familial, un repas pascal, avec ses apôtres. Oh, il y avait Marie, bien sûr. Il y avait même peut-être d'autres personnes. Pourquoi pas? Peut-être les disciples d'Emmaüs, qu'on va retrouver après. Et donc Jésus célèbre le repas pascal. Or, ce repas pascal rappelle la libération de l'Égypte. Alors tout cela, évidemment, n'est pas fait par hasard, vous le comprenez bien. Pourquoi? Parce que, en faisant cela, Jésus va s'identifier à l'agneau qui, chaque année, est offert dans chaque famille pour fêter la Pâque. En fait, Jésus va réaliser la transition d'agneau mangé chaque année à lui-même. C'est lui l'agneau pascal. Alors, vous imaginez bien que tout cela n'a pas été compris du jour au lendemain. Hein. Il a fallu l'aide de l'Esprit Saint et petit à petit la compréhension en profondeur de ce que Jésus avait fait. Mais que fait Jésus le jeudi saint? Il se substitue à l'agneau pascal. C'est lui l'agneau pascal. Et que fait-il? L'agneau pascal qui était mangé dans les familles, eh bien, va devenir Jésus lui-même qui se donne en nourriture à ses apôtres. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Autrement dit, et c'est ça qui est absolument bouleversant, ce qui est bouleversant, c'est que Jésus institue la nouvelle alliance. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il élève la coupe. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Voici la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Je le répète, frères et sœurs, je pense que les apôtres ce soir-là n'ont rien compris. Et on ne peut pas leur en vouloir, hein, parce que c'était quand même tellement énorme. Mais que dit Jésus? Il dit donc, voici la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Si jamais vous étiez à l'office tout à l'heure, à l'office des ténèbres, vous avez entendu ce passage de l'Épître aux Hébreux qui nous explique que les alliances commencent toujours par un sacrifice. Un sacrifice. Voilà. Et ce que dit l'Épître aux Hébreux, c'est que ce sang versé avec Jésus, ce n'est pas du sang de bouc ou de brebis, mais c'est son propre sang. Donc Jésus anticipe, au moment du repas pascal, anticipe ce qu'il va vivre le lendemain sur la croix quand il va verser son sang. Vous savez, plus on contemple ce mystère, et plus on est émerveillé de la beauté de la foi chrétienne. Personne n'aurait pu inventer quelque chose de semblable. Personne n'aurait pu imaginer une telle réalité. Et donc, ça veut dire simplement que, bon, allez, permettez-moi de le dire, hein, que c'est la vérité qui nous est dévoilée, évidemment, la vérité en plénitude. Excusez-moi, pause technique. Donc, je reprends avec vous ce qui s'est passé hier. Donc, première messe qui rappelle la sainte scène que Jésus a célébrée avec ses apôtres, où il a célébré le rite du repas pascal, et ensuite il l'a transformé en présentant le pain et le vin à ses apôtres. Vous avez remarqué que dans cette liturgie du jeudi saint, étonnamment, nous ne trouvons pas le récit de l'institution de l'Eucharistie par Jésus qu'on trouve chez les évangélistes, en particulier les trois évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. En fait, l'Église nous fait entendre, et c'est quand même étonnant, le texte de saint Jean. Qui ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie? Et alors là, on se dit, mais enfin quand même, on est en train de parler de l'institution de l'Eucharistie, c'est quand même la chose la plus importante du jeudi saint, et on nous met un évangile qui n'en parle pas. Rassurez-vous, l'Église sait ce qu'elle fait. D'abord parce que l'Église nous a fait entendre cela dans la deuxième lecture de cette messe du jeudi saint. Saint Paul aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens. Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit le pain, etc. Et donc saint Paul nous relate cela avec une précision qu'il a reçue sûrement des apôtres, qu'il a même peut-être reçue de Jésus. Mais donc ce texte de l'institution de l'Eucharistie, nous l'avons, heureusement, nous l'avons à travers saint Paul. Pourquoi l'Église n'a pas ensuite proposé que l'on entende ce récit dans la bouche d'un des évangélistes synoptiques? Parce que il faut que nous comprenions quand même ce que signifie ce geste que Jésus accomplit. Et du coup, ça nous éclaire nous-mêmes sur notre manière de contempler, d'adorer l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la vie livrée de Jésus pour nous. Sa vie livrée pour nous. Comment le manifeste-t-il? Eh bien, tout simplement, si j'ose dire, à travers le lavement des pieds. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous rapporte saint Jean. Saint Jean nous dit, au moment du repas, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il se lève de table, il retire son vêtement, met un tablier, se met à genoux devant ses disciples. Alors, il y a évidemment de nombreuses manières de contempler ce que Jésus est en train de faire. Tiens, par parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, le pape hier était dans une prison. Il est quand même pas en très 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 bonne santé, hein, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, il n'a pas voulu de rester chez lui tranquillement, et donc il est allé dans une prison. Il est quand même formidable, hein, notre pape. Ça, c'est la parenthèse que je ferme. Et donc Jésus, je reviens à Jésus, en faisant le geste du lavement des pieds, se fait le serviteur des disciples. Ou encore, se fait l'esclave des disciples. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Et donc le récit du lavement des pieds, qui est en plus symboliquement et liturgiquement vécu ensuite par le président de l'Assemblée qui vient laver les pieds de quelques personnes, ce geste nous fait comprendre, en fait, que l'Eucharistie est le don que Jésus nous fait de lui-même, qui va jusqu'à accepter de mourir pour nous, sur la croix. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure que ces trois jours n'en font qu'un, enfin ne font qu'un seul acte. Parce que vous voyez déjà que dans le récit du Jeudi Saint, dans la description de la liturgie du Jeudi Saint, vous remarquerez que déjà, il est question de la mort de Jésus. Déjà. Ben attendez, il est question aussi de sa résurrection. Les apôtres, le Jeudi Saint au soir, ils ont reçu Jésus ressuscité. Mais Père, c'est pas possible, il n'est pas encore mort. Oui, mais on est dans la liturgie, je vous rappelle, hein, et on est dans un acte qui est hautement symbolique. Évidemment que Jésus qui se donne à ses apôtres le soir du Jeudi Saint, c'est déjà Jésus ressuscité. Évidemment, il anticipe dans ce mystère de l'Eucharistie sa résurrection. D'ailleurs, c'est bien ce que nous faisons à chaque Eucharistie, hein. Vous avez conscience que à chaque Eucharistie, c'est Jésus ressuscité qui est présent devant nous. Ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas Jésus qui est mort. Sur l'autel, c'est jamais Jésus qui est mort, jamais. C'est toujours Jésus vivant qui est là, à toute Eucharistie. On sépare le corps et le sang pour dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais c'est symbolique cette séparation. Dans la réalité, Jésus est présent sous les deux espèces, celle du pain et celle du vin. Donc Jésus, le soir du Jeudi Saint, était présent, ressuscité, par avance, pour ses apôtres. Une chose que je vais dire encore maintenant, et qui est simplement révélatrice de ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction à la fin de la messe. La messe du Jeudi Saint ne finit pas par une bénédiction. Et elle ne finit pas par la parole du prêtre « Allez dans la paix du Christ ». La messe se termine par l'oraison après la communion et ensuite la procession avec le Saint-Sacrement pour aller au reposoir. Pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Parce que la bénédiction, frères et sœurs, il faudra l'attendre la nuit de Pâques. Aujourd'hui, donc le Vendredi Saint, il n'y a aucune bénédiction. Aucune bénédiction. Le prêtre ne bénit pas le Vendredi Saint. C'est pas la peine de venir avec vos chapelets pour les faire bénir. On vous les bénira pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne les bénirai pas. Après, si d'autres prêtres le font, tant pis pour eux. Mais on ne bénit pas le Vendredi Saint. Jésus est mort, on ne bénit pas. On contemple la mort du Christ. Voilà, ça c'est pour notre approche du Jeudi Saint. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Alors, il était convenu que ce soit pas tout le monde moi qui parle, parce que d'abord c'est fatigant pour vous, et surtout c'est bien que vous puissiez intervenir si vous avez envie de poser des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que quelqu'un se sacrifie pour faire circuler le micro, pour que si des gens veulent poser des questions, ils puissent les poser. Vous êtes formidables. Dieu vous le rendra au centuple. Donc il y a des gens qui veulent poser des questions, et moi je parlerai fort, donc ça ira. Donc sur tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, ou s'il y a des choses que vous voulez voir éclairées, ou s'il y a des avis contraires, ou si ça vous a exaspéré ce que je vous ai dit, voilà, vous avez le droit de réagir, profitez-en. La parole est à vous. Alors, j'en ai pas parlé encore, hein, c'est pour la suite. Je vais en parler. Mais posez votre question quand même.
Oui, ma question, c'est que la célébration de la passion qui passe à nos enfants est le chemin de la croix. Est-ce qu'on peut assister à la célébration de la passion à nos enfants et faire le chemin de la croix?
Sans problème! Sans problème, vous inquiétez pas, ça pose aucun problème. On n'est pas dans la chronologie parfaite, hein, rassurez-vous. On n'est pas dans la chronologie parfaite. C'est son anniversaire à Gérard aujourd'hui. Merci Gérard. Donc vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance. Mais pensez, s'il y a des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, n'hésitez pas. Puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Ah, je sens qu'il y en a une là, peut-être, qui est en train de naître. Allez, courage.
Bonjour, mon père, merci pour la présentation. J'ai une question sur les symboles de Pâques. Je voulais savoir si l'œuf de Pâques avait une signification.
Oui, parce que c'est un symbole, bien sûr, c'est un symbole de vie. Et dans la tradition, par exemple, orthodoxe, orientale, vous savez qu'on décore des œufs pour Pâques. Donc nous, ça, c'est devenu simplement du chocolat, donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais en fait, c'est un symbole de vie, l'œuf, évidemment, et qui manifeste précisément que la vie est victorieuse de la mort. Donc c'est très important. Enfin, c'est important. Pour eux, pour nous, c'est du chocolat. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas la même chose, évidemment. Bon, alors là c'est le grand délire. Voilà, ça c'est. Il n'y avait pas de lapin autour de la tombe de Jésus, hein. Il n'y avait pas de poule non plus. Mais voilà, ça fait partie de l'imaginaire commercial. Mais on a le droit d'en manger, évidemment, hein. On les donne avant le mercredi des cendres pour qu'ils soient brûlés et pour qu'ils servent pour les cendres du mercredi des cendres.
Donc le dernier dimanche avant le carême.
Exactement, le dernier dimanche avant le carême, normalement, on vous invite à porter les rameaux pour, de telle manière qu'ils puissent être. Alors si vous le faites pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez le brûler chez vous. Mais si vous le faites comme ça, ça permet de les brûler et de faire des cendres pour la célébration du mercredi des cendres, en fait. Vous le brûlez chez vous.
Okay.
Vous pouvez le brûler chez vous, hein. En évitant de mettre le feu, évidemment, mais. D'accord. Et vous pouvez pas vous rapprocher d'un haut-parleur ? Vous avez un haut-parleur qui est là. Les sept. Il y en a eu sept. Alors en fait, l'office des ténèbres, ce qu'on appelle l'office des ténèbres, c'est un office qui était chanté depuis toujours, enfin presque, et qui était chanté à 6h du matin, très tôt, avant le lever du jour. Et la tradition a voulu qu'on allume sept cierges qui rappellent les sept psaumes qui sont chantés pendant cet office. Parce que vous avez d'abord l'office des lectures avec trois psaumes et ensuite vous avez l'office des laudes avec trois psaumes. Et enfin vous avez le Benedictus, le béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et donc, au fur et à mesure que l'office se déployait, on éteignait les cierges parce que le jour se levait. Mais dans la réalité, il y a aussi un sens symbolique. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'office des ténèbres, on avance, en fait, vers le mystère de la mort de Jésus. Et pour manifester cela, eh bien, les ténèbres l'emportent sur la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle l'office des ténèbres. Et donc au fur et à mesure, on éteint les cierges à la fin de chaque psaume. Les trois psaumes de l'office des lectures, les trois psaumes de l'office des laudes, et le dernier tout en haut, qui est qui correspond au Benedictus. Alors après, je vais vous raconter quelque chose, c'est que dans certaines traditions, on n'éteint pas le dernier, puisque c'est celui du Benedictus. Mais il y a quelqu'un qui le prend et qui va se cacher. Alors, j'étais pendant 5 ans chapelain à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et donc chaque année, nous avions l'office des ténèbres avec les 7 cierges qu'on éteignait au fur et à mesure. Et le dernier, qui correspond à, qui est le plus haut, donc quelqu'un, un clerc le prenait et allait se cacher derrière l'autel. Et après la prière du Notre Père, il y avait un grand silence et le recteur de la basilique commençait à taper sur les stalles. Et à ce moment-là, tous les maîtrisiens, ils étaient plus de 40 dans le chœur, ils se mettaient à taper eux aussi sur les stalles. Et donc ça faisait un brouhaha pas possible. Et celui qui était caché derrière l'autel revenait avec le cierge allumé pour le remettre en haut. C'était pour dire que le trépidum, le fait de taper, c'était pour symboliser la résurrection de Jésus, le tremblement de terre dont parle saint Matthieu. C'était pour symboliser le fait que la vie était victorieuse. Bon, ça se fait plus beaucoup visiblement. Alors à l'époque, c'était très utile parce que vous imaginez 50 gamins qui passent une heure dans les stalles à ne rien faire, vous imaginez leur état d'excitation. Et donc ils savaient qu'à la fin, ils allaient pouvoir taper de toute leur force. Alors ça les réjouissait beaucoup. Donc pendant 50 minutes, ils étaient capables de se retenir et puis après, paf, paf, paf. Ça, c'était très bien. Voilà. Alors c'est pas ce que je vous ai dit exactement. Je vous dis sur un autel, vous avez généralement six cierges. Le maître autel. Alors c'est pas le cas en ce moment, mais sur un autel, vous avez généralement 6 cierges et au milieu la croix, le crucifix. Et ce que je pense avoir dit, c'est qu'en fait cette réalité, voilà, des 3 cierges et la croix au milieu est la représentation de la menorah, c'est-à-dire de ces 7 cierges qui étaient dans le temple de Jérusalem et qui symbolisaient la création. Et de même que ces sept cierges symbolisent la création, de la même manière, les six cierges plus la croix symbolisent la recréation, la victoire du Christ sur la mort. Et donc, en fait, quand vous voyez dans une église, alors ici c'est pas le cas, mais quand vous voyez dans une église trois cierges et un crucifix au milieu, eh bien, dites-vous que c'est l'expression de l'accomplissement en Jésus, de l'œuvre de la création, la ménorah, qui est accomplie par le mystère de la croix et de la résurrection. Alors, je veux même vous dire encore quelque chose. Vous avez la chance aujourd'hui, vous êtes là, donc vous avez droit à des secrets qu'on ne dit jamais. Là aussi, on oublie de le faire, mais c'est tant pis. Mais bon, c'est dommage. Sur un autel, vous avez remarqué, sur l'autel qu'il y a, enfin l'autel sur lequel nous célébrons la messe, vous avez remarqué qu'il y a trois cierges généralement le dimanche, enfin pardon, six cierges, trois et trois, et au milieu il y a la croix, la ménorah. Très bien. Eh bien, quand un évêque est présent et préside la messe, quand l'évêque en particulier du lieu est présent, on allume une septième bougie devant la croix pour rappeler la présence de l'évêque qui est successeur des apôtres. C'est beau, non, vous trouvez pas? Bon, voilà. Bon, je vais peut-être reprendre la parole, non? Je vais peut-être reprendre la parole, ça vous gêne pas? Vous ramenez le micro? Vous êtes formidable. Ouais, mais c'est pas grave. Abondance de biens ne nuit pas. Peut-être que les gens seront encore plus contents avec les deux micros. Alors, vous avez remarqué que j'ai volontairement divisé les choses parce que ce que je vais vous dire maintenant concerne le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint. Un jour, évidemment, unique. Monsieur le curé l'a dit tout à l'heure à la fin de l'office, vous avez remarqué que l'Église est plongée dans les ténèbres. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire ici aussi. Ah, ben voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, et si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que vous m'entendiez. Donc, monsieur le curé nous a rappelé tout à l'heure que l'Église est plongée dans la ténèbre. Le tabernacle est ouvert, il est vide. On n'allume pas de cierge pour le culte des saints. On ne met pas de fleurs. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que Jésus est mort. Et qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, nous arrivions à prendre conscience de ce que ça représente. Jésus est mort. Ce qu'a vécu la Vierge Marie au pied de la croix, ce qu'a vécu Saint Jean, ce qu'ont vécu les femmes, ce qu'ont vécu les témoins qui étaient là, est abominable, abominable. Jésus rend son dernier souffle sur la croix. Et en fait, en ce jour du Vendredi Saint, l'Église veut que nous soyons complètement centrés sur le mystère de Jésus. Alors, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de messe. Mais mon père, il y a bien un office tout à l'heure. Il n'y a pas de messe. Ce n'est pas une messe. La messe, on l'a célébrée hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de messe. Donc ne dites pas, oh ben tiens, je vais aller à la messe du Vendredi Saint. Non, ça n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas de messe? Parce que le mystère de la mort de Jésus est si grand, que l'Église ne s'autorise pas à célébrer l'Eucharistie. Et donc, elle va déployer un très 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 grand office, absolument magnifique. Un office dans lequel, en fait, elle va donner l'occasion aux fidèles d'accueillir ce grand mystère de la mort de Jésus. Vous avez les offices de la Semaine Sainte, Il faut les rater pour rien au monde, hein. Sauf si on est malade. Mais sinon, vraiment, c'est trop beau, c'est trop grand. Moi, ça me fait toujours de la peine de penser que déjà, il y a 3% de pratiquants en France, c'est-à-dire 3% de gens qui vont à la messe une fois par mois, parce que c'est comme ça que c'est calculé. Voilà. Et donc, s'il y en a 3% et que vous regardez les églises pour la Semaine Sainte, vous vous dites, il y en a encore moins. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent complètement à côté. Je vais raconter un truc, mais parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Lorsque j'étais à Montmartre, je m'occupais de jeunes professionnels, entre autres. J'avais une nuit d'adoration avec eux, une fois par mois. Et ils étaient entre 100 et 120 à venir chaque mois. Je leur faisais un enseignement. Ensuite, on partait pour la messe à 22h, vous savez, la messe de Montmartre. Et puis après, ils se relayaient dans la nuit pour adorer. Arrive la dernière réunion, enfin, pas la dernière, une réunion qui a lieu une semaine avant la Semaine Sainte. Et, donc c'était un mardi. Et deux, trois jeunes viennent me voir et me disent « Oh père, qu'est-ce qu'on est heureux! Vraiment, qu'est-ce qu'on est heureux! On a réussi à organiser un week-end à la neige pour le week-end de Pâques. » Oh! Ben, je dis, ben, ça, c'est bien. Alors, ça, c'est vraiment bien. Et alors, je leur dis, mais vous partez quand? Ah, ben, on part juste après le travail, le vendredi. On part en voiture, comme ça on arrivera en fin de nuit, enfin en fin de soirée là-bas. Ah, oh, ben ça c'est bien. Mais je lui dis, mais comment vous faites pour aller à l'office de la Passion? Ah ben oui, on n'y a pas pensé. Ah ben c'est dommage quand même. Hein. Alors vous savez ce que vous ferez dans la voiture? Vous passerez le voyage en silence et vous lirez la Passion de Jésus selon saint Jean. Ah ouais, très bien mon père. Ah ouais, très bien. Et le lendemain, pour la vigile pascale, vous avez repéré où est-ce qu'elle pouvait avoir lieu? Ah ben non, pas du tout. Non, bien sûr que non. Ah oui, vous allez skier, manger de la tartiflette, mais le reste, vous vous en foutez, quoi. Donc, vous me ferez le plaisir votre départ de vous renseigner pour savoir où est-ce qu'il y a la vigile pascale. D'accord. Très bien. Et le dimanche de Pâques, je vous rappelle que vous n'êtes pas dispensé de messe, hein. Ah ben oui, le matin, on va sur les pistes. Ben oui, mais il y a la messe de la résurrection. Donc, vous irez à la messe de la résurrection. Ah ben oui, très bien, mon père. Ah ben oui, très bien. Ils l'ont fait, en plus. C'est ça qui est bien. Ils étaient obéissants. Mais vous voyez, les gens imaginent le week-end de Pâques comme un week-end de 3 jours où on va pouvoir s'éclater. Excusez-moi, le week-end de Pâques pour les chrétiens, c'est le week-end de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est le Triduum pascal. Alors, je vais décrire avec vous, pour vous, le déroulement du Vendredi Saint. Donc, tout est plongé dans la ténèbre, évidemment, et la célébration commence de manière bouleversante, vraiment. Les prêtres rentrent en procession, en silence. Ils arrivent dans le chœur et ils se couchent par terre en signe d'anéantissement devant le mystère de la mort de Jésus. Donc les fidèles sont là, ils regardent, ils voient les prêtres passer en silence et quand ils arrivent dans le chœur, les prêtres se couchent, font une prostration. S'ils le peuvent, évidemment, ceux qui ne peuvent pas le faire ne le font pas. Mais normalement, c'est ce qu'ils font. Et puis ensuite, on est toujours dans le silence. Celui qui préside la célébration commence la prière qui ouvre cette célébration. Et cette prière est bouleversante aussi. Parce qu'elle demande à Dieu de nous faire entrer dans ce grand mystère que nous sommes en train de vivre. Ensuite, il y a les lectures, évidemment, parce que c'est une célébration liturgique. Il y a les lectures, une première lecture, un psaume. Il y a même une deuxième lecture. Et puis, le récit de la passion. Récit de la passion. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous allons entendre à nouveau ce qui s'est passé pour Jésus. Vous allez dire, mais on l'a déjà entendu le jour des rameaux, ça suffit comme ça, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. D'abord parce que le jour des rameaux, on a entendu une passion tirée des synoptiques. Cette année, c'était Saint-Luc. Et le vendredi saint, on va entendre la passion selon Saint-Jean. Et la passion selon Saint-Jean, je vous l'assure, elle est impressionnante. Vous allez dire que je suis tout le temps impressionné, mais c'est vrai que c'est bouleversant là aussi. La passion, on l'introduit en chantant « Le Christ pour nous s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. » Et puis il y a la lecture de la passion. Vous avez remarqué peut-être, je vous le dis parce que je suis heureux que les gens ne fassent pas d'erreur, le début de la lecture de la passion n'est pas fait par celui qui joue le rôle du Christ, mais par celui qui joue le rôle de lecteur, celui qui fait le narrateur. C'est-à-dire qu'il dit « La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean ». Et paf, il commence. Il n'y a pas d'acclamation, il n'y a pas « Gloire à toi, le Seigneur ». Non, on commence tout de suite. Et on lit la passion selon saint Jean. Parce que cette passion n'est pas comme les autres. Enfin, vous avez remarqué de manière habituelle que saint Jean, n'est pas exactement comme les autres évangélistes. Par exemple, la femme adultère que nous avons entendue pendant le cinquième dimanche de Carême, eh bien, c'est dans l'évangile de Jean. Le lavement des pieds, c'est dans l'évangile de Jean. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous entendons qui, en fait, ne sont pas dans les autres évangiles, mais qui sont dans le texte de saint Jean. Alors, je vais simplement essayer de reprendre le texte pour mieux le commenter. Je fais un petit retour en arrière parce que j'avais pas ça sous les yeux. Les fameuses lectures que nous lisons pendant l'office de la Passion et de la mort du Seigneur, ce sont les lectures du prophète Isaïe 52-53, les chants du serviteur souffrant. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Quelle densité dans ce passage. Vous savez que ces chants du serviteur souffrant qu'on trouve en Isaïe ont donné lieu à différentes interprétations parce que il était évidemment difficile d'imaginer au départ que ce puisse être le Messie qui vive cela. Et puis, quand l'interprétation a été avancée, on est venu à dire que le serviteur souffrant, le Messie souffrant, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël, lui-même. Et les chrétiens y ont vu la figure de Jésus. C'est lui le serviteur souffrant. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Et puis, nous entendrons évidemment en deuxième lecture Un passage de l'Épître aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit dans un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Oh, qu'il est grand le mystère. Alors ça peut surprendre d'ailleurs ce qu'on a entendu à l'instant. Quand nous entendons, il a supplié Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé. Alors on pourrait se dire, mais comment ça il fut exaucé? Pas du tout. Il est mort. Il demandait à Dieu d'être délivré de la mort et il est mort. Comment on peut dire que Dieu l'a exaucé? Eh bien parce que évidemment, l'Épître aux Hébreux ne s'arrête pas à la mort du Christ sur la croix, mais il voit déjà sa résurrection. La manière dont Jésus a été exaucé, ce n'est pas qu'il a été exempté de la mort, c'est qu'il a été délivré définitivement de la mort par la résurrection. En fait, la résurrection, c'est la manière dont le Père a ressuscité son Fils, a relevé son Fils. Le Christ ne s'est pas auto-ressuscité. Le Christ ne s'est pas lui-même ressuscité. C'est là par la puissance du Père qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et donc lorsque l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a prié le Père et le Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé, ce que nous dit le texte, c'est qu'en fait, il a effectivement été exaucé. Et puis ensuite, donc, j'arrive à la passion, pardon. Enfin, pardon, je voudrais évidemment détacher, je voudrais vous parler un peu plus de ça. Donc, Saint Jean va nous décrire la passion du Christ avec une intention théologique. Théologique. C'est-à-dire qui n'est pas nécessairement la description absolue de ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les autres passions, on nous dit ce qui s'est passé. Mais c'est bien, hein, pardonnez-moi, je ne dis rien contre les autres évangélistes. Hein. Mais il se trouve que Saint Jean va donner un sens théologique à sa passion. Donc, il arrive au jardin des Oliviers. Judas, qui le livrait, arrive avec un détachement de soldats. Il s'avance et dit aux soldats, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis. » Ils reculèrent et tombèrent à terre. Ils leur demandèrent de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous le dis, c'est moi, je le suis. » Donc, quand je vous commande ça, c'est pour vous dire, j'espère que je ne vais pas vous choquer, hein, mais évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Vous imaginez Jésus qui dit « c'est moi » et les types reculent et tombent en arrière. Il le refait une deuxième fois et il retombe en arrière. Mais attendez, c'est du théâtre ça, ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi Saint Jean nous raconte-t-il ça? Pour nous montrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et que devant lui, tout genou fléchit ou en tout cas, rien ne lui résiste. Et c'est pour ça que le détachement de garde tombe en arrière, évidemment. Donc c'est une mise en scène. Attendez-vous, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Vous n'êtes pas encore au bout de peines. Voilà, donc Pierre qui va dire, qui dit rien du tout, il prend son épée et il tranche l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Entre nous, Sadie, ça vous est déjà arrivé d'avoir une oreille tranchée par une épée? Ça doit faire quelque chose quand même, hein. Je veux dire, quand vous avez l'oreille qui est tranchée, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas. Et alors à ce moment-là, on nous dit quoi? Jésus qui fait quoi? eh bien, qui le guérit. Voilà. Donc il le guérit. Très bien. Parfait. Jésus arrive devant le grand prêtre. Alors, si vous voulez vous représenter les choses, à l'époque, Jérusalem, il y a deux ou trois lieux importants. Le premier, évidemment, c'est le temple, qui est à l'est de Jérusalem, qui est devant le mont des Oliviers. Ça, c'est une première chose. Et puis, si vous êtes en train de regarder le temple, vous avez le mont des Oliviers derrière vous, l'est derrière vous. Donc, vous avez en face de vous l'ouest. Donc, à votre gauche, vous avez le nord. D'accord ? Non, je dis des bêtises. Vous avez le sud. Excusez-moi. Eh bien, il y a là une colline, enfin, une ville haute, où se trouve le palais du grand prêtre et des maisons de notables. Voilà. Et puis après, vous avez toute la ville qui est... la ville de Jérusalem est assez vallonnée. Et donc après, vous avez toute la ville qui se déploie. Et puis, juste en face, du côté ouest, vous avez ce qu'on appelle la forteresse. Non, vous avez la citadelle. Voilà, la citadelle, qui est le palais d'Hérode. Voilà. Donc, Jésus a été arrêté au mont des Oliviers. On prend le cédron. On descend vers le sud. Et puis ensuite, on remonte vers la ville haute pour aller vers le palais du grand prêtre. Petit détail, mais qui est quand même important, hein. Petit détail. Est-ce que vous savez où Jésus a célébré la Sainte Cène? Au Cénacle. Qu'est-ce que c'est le Cénacle? On nous dit une pièce à l'étage. Une pièce à l'étage. Et donc Jésus est dans une maison de quelqu'un de très riche. À l'époque, il y a des maisons simples, il n'y avait pas d'étage. Donc s'il se trouve dans une maison à l'étage, ça veut dire qu'il se trouve dans la maison d'un riche. Et qu'il y a une grande maison, avec une grande salle pour célébrer la Pâque. Parce que je vous rappelle qu'ils étaient un peu nombreux quand même. Allez, encore un petit détail, parce que sûrement vous ne le savez pas ou on vous l'a dit, mais vous avez oublié. Comment Jésus et les disciples ont-ils partagé le jeudi saint, le repas du jeudi saint, le repas pascal du jeudi saint? Comme vous l'a montré Léonard de Vinci en peignant la scène. Non, excusez-moi, c'était pas comme ça. Je suis désolé. Ne vous imaginez pas la scène avec une grande table puis des gens qui sont sur des chaises autour. Ils étaient sur des banquettes. Parce que à l'époque, je vous rappelle qu'on était dans une époque marquée par Rome et puis avant par la Grèce. Et donc les repas de fête se faisaient sur des banquettes. Donc il faut imaginer Jésus sur une banquette et les apôtres sur des banquettes. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez remarqué que le disciple que Jésus aimait, il est tout contre Jésus. Comment vous faites pour être tout contre quelqu'un quand vous êtes assis à table sur une chaise? Et il se penche sur sa poitrine. Comment vous faites si vous êtes sur une chaise pour se pencher sur la poitrine de quelqu'un? Donc évidemment, il se penche sur la poitrine parce qu'il est juste à côté de Jésus et qu'il peut se pencher vers lui comme ça. Je ferme la parenthèse. Oh, mais non! Évidemment que je ferme pas la parenthèse. Parce que cette maison de riches, elle est dans ce fameux quartier des maisons riches, des fameux quartier des maisons riches de Jérusalem. Donc, là où Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, c'était dans la maison d'un riche. Pardonnez-moi, c'était dans la maison d'un riche. C'est pas gênant, hein. Jésus aimait bien les riches, hein. Ils aimaient pas les riches, mettaient en garde les riches qui étaient fermés sur leur richesse. Ça veut pas dire qu'ils n'aimaient pas les riches. Voilà. Donc, on nous dit que il arrive donc chez Caïphe, qui était grand prêtre aujourd'hui, cette année-là, pardon. Non, pardon, on l'amène chez Anne, excusez-moi, beau-frère de Caïphe. Et Saint Jean nous rappelle la parole de Caïphe, il vaut mieux qu'un homme seul meure pour tout le peuple. Voilà, vous avez ça en tête. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. C'est pas une prophétie qui va se réaliser. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Ah bon? Alors le disciple que Jésus connaît, le disciple qui était avec Pierre, c'est pas un apôtre. Vous imaginez bien qu'un apôtre, il connaissait pas le grand prêtre. Donc c'est quelqu'un d'autre qu'un apôtre. Voilà, donc ils entrent. Et là, il y a l'interrogatoire, etc. Je vais pas tout commenter parce que sinon, ce sera trop long et puis vous allez vous lasser. Évidemment, il y a le récit de la trahison, du reniement, pardon, de Pierre, évidemment. Et ensuite, Jésus qui est amené au prétoire. Pourquoi? Parce que il est amené devant Pilate, qui est le gouverneur. Et là, quand je vous dis que Saint Jean nous donne une vision théologique de la passion de Jésus, ça va se voir en particulier dans les dialogues que Jésus va avoir. Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Dans un interrogatoire un peu normal, on dirait, ben Jésus ou bien il dit oui ou bien il dit non. Or vous avez remarqué, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Théologiquement, qu'est-ce qu'il fait? Jésus veut que la réponse vienne de celui qui l'interroge. C'est pour cela que Jésus parle ainsi. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Et c'est tellement perçu par Pilate comme une manière de Jésus de l'impliquer qu'il répond, est-ce que je suis juif, moi? Il est furieux parce qu'il voit bien que Jésus est en train de l'impliquer. Jésus déclara, qu'as-tu donc fait? Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Alors vous comprenez qu'une parole comme celle-là dans la bouche de Jésus, c'est la réponse définitive à la question que nous pouvons nous poser par rapport à la royauté de Jésus. Des gens qui pourraient imaginer que la royauté de Jésus est de ce monde n'ont pas écouté ce que dit Jésus dans la Passion. Parce que ce que nous enseigne Jésus, et ce qu'il nous enseigne, c'est évidemment extrêmement fort théologiquement, c'est que le royaume dont il parle, c'est le ciel. Et que ce royaume ne sera jamais sur la terre. Jamais, jamais, jamais. Il y a une religion qui a gardez cela comme principe. Ça s'appelle la théocratie. C'est-à-dire que le pouvoir politique se confond avec le pouvoir religieux. Cette religion, c'est l'islam. Parce que l'idée, c'est que pouvoir politique et pouvoir religieux sont confondus. Mais dans la réalité, Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela pour une raison simple, c'est que Jésus lui-même explique « Mon royaume n'est pas de ce monde. Ma royauté ne vient pas d'ici. » Vous savez, dans une époque qui n'est pas si loin que cela, hein, parce que je dis ça parce que c'est une époque que j'ai connue quand j'étais plus jeune et que j'étais jeune prêtre. Vous savez, il y a la fête du Christ roi de l'univers. La fête du Christ roi de l'univers, c'est une fête qui est un peu ambiguë parce que on peut confondre la royauté présente du Christ, la royauté céleste du Christ et la royauté politique. Et donc, moi je me rappelle quand j'étais chapelain à Montmartre pour la fête du Christ roi, on chantait en chant d'entrée. Par le commandeur règne, nous sommes tous à toi, Jésus étant ton règne de l'univers, sois roi. Et pendant ce temps-là, les maîtrisiens marchaient au pas cadencé, comme s'ils étaient militaires, pour arriver jusqu'au cœur. Pourquoi c'est une chose à laquelle il faut faire attention, frères et sœurs? Parce que la manière dont le monde est organisé politiquement, évidemment que ça concerne Dieu. Mais si on confond ce moment-là, cette réalité-là, avec la réalité divine du paradis, on fait un contresens. On fait un contresens. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas mélanger les deux. Je vais vous dire quelque chose, j'espère que ça ne va pas vous choquer. Nous sommes dans une société qui, vous le savez, n'est pas vraiment chrétienne. Enfin, je vous annonce rien de spectaculaire en disant ça. On est dans une société qui n'est pas vraiment chrétienne, évidemment. Et les chrétiens sont évidemment blessés, sont évidemment choqués, parce qu'il y a des lois qui sont votées, qui sont contre notre conscience. Évidemment. Évidemment. Peut-être que dans quelque temps, on va avoir une loi sur l'euthanasie. Or, vous le savez très bien, l'Église est très claire là-dessus. L'Église universelle, en la personne du pape, les évêques de France, l'archevêque de Paris, c'est très clair là-dessus. Évidemment que nous sommes contre l'euthanasie, évidemment. Mais cette loi va peut-être passer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas chrétien, qui n'est plus chrétien. Et donc, nous ne sommes pas majoritaires. Et donc, il ne faut pas espérer que les idées excellentes que nous avons vont être adoptées par tous. Si nous voulions qu'elles soient adoptées par tous, ça voudrait dire que nous voudrions que le pouvoir politique soit en quelque sorte encadré, soit déterminé par la direction religieuse. Mais il faut accepter que ça ne soit pas le cas. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se battre et qu'il ne fallait pas dire ce que l'on pensait. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire entendre notre point de vue. Évidemment. Mais il faut accepter que notre société ne soit pas comme cela. Vous savez, longtemps, j'étais exaspéré le Vendredi Saint parce que je sortais dans la rue et il y avait des gens qui étaient attablés en train de boire de la bière, un apéritif, en train de se bouffer une côte de bœuf. J'ai dit « Waouh, mais c'est pas possible ça quand même, c'est le Vendredi Saint, c'est pas possible !» Jusqu'au jour où je me suis dit « Mais ces gens, ils ont le droit de pas être chrétiens. Ils ont le droit de pas savoir ce que c'est que le Vendredi Saint. Je vais pas leur imposer. Si moi je ne mange pas une côte de bœuf le Vendredi Saint, c'est normal puisque c'est un jour de jeûne. Mais c'est normal que je le fasse. Les gens qui sont pas chrétiens, ils font ce qu'ils veulent. Et donc il faut que j'accepte d'être dans une société dans laquelle la plupart des gens aujourd'hui ne font pas cela. Vous comprenez pourquoi quand Jésus dit « Ma royauté n'est pas d'ici, ma royauté ne vient pas d'ici », il nous dit quelque chose de fondamental. Il faut que nous acceptions d'être le levain dans la pâte de ce monde, tout en acceptant que tout ne soit pas fait aujourd'hui encore, et peut-être pour longtemps encore, comme nous aimerions que cela soit fait. Vous avez bien fait de venir, vous voyez, je vous dis plein de choses. Je continue avec la passion. Qu'est-ce que la vérité ? Voilà. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Et alors là, Pilate fait flageller Jésus. Par parenthèse, on ne le dit pas toujours, mais Jésus a subi une double peine, puisqu'il a été mis à mort dans la crucifixion et qu'on lui a imposé aussi la flagellation, qui était le traitement infligé aux gens qui précisément n'allaient pas être mis à mort. Vous comprenez ? La flagellation, c'est Pilate qui la décide, et c'est pour dire, voilà, il a eu son compte, c'est bon. Mais devant l'insistance des gens devant lui, eh bien, il va finalement accepter que Jésus... Il va accepter que Jésus soit crucifié. Donc Jésus non seulement a connu la flagellation, mais en plus le portement de la croix, mais en plus la crucifixion et la mort. Alors je vais vous lire une chose. Je vais vous lire une chose, mais excusez-moi, il faut juste que je trouve le temps de la retrouver. Parce qu'en fait, voilà. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, hein. Il y a les soldats qui ont flagellé Jésus, qui lui ont mis une couronne d'épines, qui l'ont battu. Et les gens qui continuent à dire « crucifie-le, crucifie-le ». Quand Pilate a entendu ces paroles, il redoubla de crainte. Et on comprend pourquoi. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus « d'où es-tu ?» Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » Alors, je m'arrête 2 secondes sur les paroles des Juifs. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'ils viennent de dire. Pourquoi ? Parce que pour un Juif, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Les pouvoirs exercés sont toujours au nom de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Pour obtenir la mort de Jésus, ils vont jusqu'à blasphémer. Vous avez entendu ce qu'ils disent ? Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. Mais attendez, on croit rêver. Les Juifs qui se font les défenseurs de l'empereur romain, qui est l'occupant, qui osent dire, alors qu'ils sont Juifs et qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Dieu, ils osent dire, si tu le relâches, tu t'opposes à l'empereur. Et pourquoi disent-ils cela ? Parce qu'en faisant cela, ils espèrent obtenir ce qu'ils demandent, que Pilate finisse enfin par livrer Jésus. Et ils vont l'obtenir. Mais c'est monstrueux quand vous y pensez. Vous savez, quand on entend ces paroles, on dit « Oh, bah oui, c'est pas très sympa ». Mais c'est pas que c'est pas très sympa, c'est un blasphème. Alors, j'en arrive au point le plus important, et je vais vous le dire maintenant. Pilate dit aux Juifs, en entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « à mort, crucifie-le. » Excusez-moi, vous n'avez pas entendu quelque chose qui vous a choqué dans ce que je viens de dire ? Vous êtes déjà allé dans un tribunal ou vous avez déjà vu un tribunal avec un juge et avec un condamné ? Vous avez déjà vu un condamné qui s'assoit devant le juge ? C'est du n'importe quoi. Excusez-moi, hein. Saint Jean, il n'est pas bête, hein. Il sait ce qu'il fait, hein. Il n'est pas bête. Donc s'il nous le dit... Vous voyez, quand je vous dis que Saint Jean, il nous livre un message théologique. Il est impossible que Jésus se soit assis sur le dallage, le Gabbata. C'est impossible. Un condamné à mort ne peut pas s'asseoir devant le peuple. C'est impossible. Pourquoi est-ce que Saint Jean nous raconte ça ? Pour une raison simple. C'est pour nous montrer que le véritable jugement, c'est Jésus qui l'accomplit. Ce ne sont pas les gens qui crient devant Jésus « à mort, crucifie-le ». Celui qui prononce le jugement, sans rien dire, c'est Jésus, qui est assis comme le juge, qui porte ce jugement. Et donc Jésus prononce ce jugement, et ce jugement, c'est quoi ? c'est je vous aime, je vous sauve, je donne ma vie pour vous. En fait, le véritable jugement, merci beaucoup Gérard, le véritable jugement que Jésus a, en quelque sorte manifeste, c'est le fait d'être assis devant les gens et de leur dire « Ma vie, c'est pour vous que je la donne. » C'est, quand vous y pensez, c'est... Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça. Peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ce que nous entendons évidemment dans la bouche de Jésus, c'est absolument extraordinaire. Puisque vous savez qu'on a sept paroles du Christ en croix. Mais ces sept paroles ne sont pas dans le même évangile. Elles sont réparties dans les différents évangiles. Et donc l'évangile de Jean nous en livre trois. Première parole. Or, au pied de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il dit à sa mère, et il dit au disciple, « Voici ta mère. » Voilà les paroles de Jésus sur la croix, les deux paroles que dit Jésus quand il est sur sa croix, la croix qui s'adresse à Marie et aux disciples que Jésus aimait, ces paroles, c'est cette expression de la maternité universelle de Marie qui, au pied de la croix, devient notre mère. Si vous êtes travaillé parfois par des gens qui vous disent « Mais c'est sûr que Jésus, il a eu des frères et sœurs. C'est sûr que Marie, il a eu d'autres enfants. » Vous savez, parfois, il y a des gens qui vous disent ça. Alors vous leur dites « Eh bien, relisez ce passage de Saint Jean. Si Jésus avait eu des frères et sœurs, Jésus n'aurait pas eu besoin de confier sa maman à un disciple. Évidemment, il s'en serait occupé. Et donc, c'est bien le signe qu'il n'a pas de frères et sœurs. » Que Marie n'a eu qu'un seul enfant, et que cet enfant, c'est Jésus. Mais elle n'a eu qu'un seul enfant dans le but et dans la vision théologique de devenir un jour la mère de tous les hommes. Voici ta mère, voici ton fils. Je vais terminer pour la Passion en vous disant que Jésus nous livre un grand mystère dans le fait que il va mourir, il meurt sur la croix avec cette parole: j'ai soif et tout est accompli. On aurait pu en rester là, hein. Saint Jean aurait pu en rester là, voilà, c'est tout est dit, mais il va raconter quelque chose qui évidemment à une portée théologique incalculable. Incalculable. On nous dit que, comme c'est bientôt la fin de la journée, et que c'est le début du sabbat, enfin, c'est le début de la Pâque, et donc on nous dit qu'il ne faut pas que les prisonniers restent en croix. Très bien. Et donc la seule solution pour les faire mourir, eh bien, c'est de leur casser, leur briser les jambes. Pourquoi ? Parce que les condamnés à mort passent leur temps à s'appuyer sur leur pied, qui est crucifié, je vous le rappelle, qui est transpercé par un clou, et donc vous imaginez la souffrance, et donc ils passent leur temps, pour pouvoir respirer un peu, à s'appuyer sur leur pied. Si vous leur cassez, si vous leur brisez les jambes, c'est terminé. En quelques secondes, ils meurent asphyxiés. Voilà. Et donc on nous dit que, eh bien, on passe ainsi briser les jambes du premier des condamnés à mort, du deuxième à côté de Jésus, et pour Jésus, on ne lui brise pas les jambes. D'accord. Ça rappelle un psaume, hein? Psaume 21. Je peux compter tous mes os. Aucun ne sera brisé. Je peux compter tous mes os. Et donc, comme Jésus est mort, il y a un soldat qui va faire quelque chose qui est de l'ordre de la, comment dirais-je, de l'attitude de quelqu'un qui veut être sûr jusqu'au bout que les choses se sont vraiment passées. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa lance et il va percer le côté de Jésus. Et vous connaissez ce qui nous est dit. Aussitôt, mais un soldat avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Ah ben, il rend témoignage pourquoi? Ben, parce que, peut-être que c'est lui, le disciple que Jésus aimait, qui était juste à côté, qui est l'auteur de l'évangile de Jean. Ah, mais on sait maintenant qui c'est l'évangéliste. C'est seulement celui qui a été le disciple que Jésus aimait, qui était juste à côté, au pied de la croix. Alors, ce geste, c'est un geste technique. On perce le côté. Le résultat est biologiquement avéré. C'est-à-dire que quand un homme a été confronté à une très 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 grande souffrance, en fait, il y a un œdème qui se forme au niveau du poumon et du cœur. Donc il y a une quantité d'eau qui s'accumule au niveau du cœur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc ce qui est dit biologiquement, c'est vrai, il y a du sang et de l'eau qui coulent. Mais on va pas en rester là. On va pas en rester là. Pourquoi? Ben parce que d'abord parce que ceux qui pourraient imaginer que Jésus n'a pas été crucifié ou que Jésus n'est pas mort sur la croix, ben là ils ont bien la preuve qu'il est mort sur la croix. Mais il y a une autre chose, enfin deux autres choses, et je vais en parler un tout petit peu maintenant, c'est que ce n'est pas anodin cette blessure, évidemment. Le cœur, c'est le symbole de l'amour. Cette blessure, elle a été faite à Jésus qui est mort. La blessure faite à un mort, elle ne peut pas se cicatriser. Les blessures qui se cicatrisent, c'est celles qui sont subies par des gens qui sont vivants. Et la nature fait bien son œuvre. Elle finit par permettre la cicatrisation. Mais une blessure faite à un mort, elle ne peut pas se cicatriser, puisqu'il est mort. Donc cette blessure, elle restera toujours ouverte. Jusque pour l'éternité. Jésus sera celui qui porte cette blessure au cœur pour l'éternité. Elle ne se fermera jamais, cette blessure. Jamais. D'ailleurs, vous savez bien que quand Jésus apparaît, le soir de Pâques, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il montre son côté, il montre ses mains, il montre ses pieds, et il montre son côté. Ses blessures. Il est ressuscité, hein? Il est ressuscité. Il n'y a pas eu de guérison miracle, il n'y a pas eu de cicatrisation miracle. Les blessures, elles restent. Ça ne veut pas dire qu'il souffre. Elles sont plus douloureuses, mais elles sont là. Alors, permettez-moi de vous dire deux choses. Première chose, puisque Jésus permet que son sang et l'eau coulent, l'Église y a vu les signes des sacrements, de la vie qui nous est donnée par les sacrements. Le baptême et l'Eucharistie. L'eau qui symbolise le baptême et le sang qui symbolise l'Eucharistie. Autrement dit, sur la croix, Jésus nous donne la vie. La mort de Jésus sur la croix n'est pas la fin de tout. C'est le commencement de tout, puisque par sa mort, il nous donne la vie. Par ses blessures, nous sommes guéris, nous avons chanté tout à l'heure. Première chose. Deuxième chose, c'est une blessure qui ne se ferme jamais. Pourquoi? Eh bien parce que cette blessure, c'est celui du cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus restera à jamais ouvert pour nous accueillir. Vous savez, les grands mystiques chrétiens ont beaucoup médité cela. Le fait que qu'est-ce que j'ai à faire, c'est à me blottir dans le cœur de Jésus. Cette blessure, elle est ouverte parce que je dois m'approcher du cœur de Jésus. Quand on pense aux disciples que Jésus aimait qui étaient là pour la Sainte Cène, et on nous dit qu'il a sa tête à reposer sur la poitrine de Jésus, pour nous c'est le symbole de la proximité de ce disciple avec Jésus, le fait qu'il a entendu battre le cœur de Jésus. Et mystiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entendre battre le cœur de Jésus, c'est goûter à son amour. Donc cette plaie qui est ouverte et qui ne se fermera jamais, restera à jamais un refuge pour ceux qui veulent s'y blottir. Nous pouvons toujours nous blottir dans le cœur de Jésus. jusqu'à la fin des temps, nous avons accès à l'amour de Jésus qui s'est manifesté sur la croix dans le fait qu'il soit mort pour nous et qu'il ait donné sa vie pour nous. Je vais rapidement percer à la troisième étape, parce que je sais que c'est long pour vous, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Simplement, je vous ai dit que le Triduum Pascal, ça ne fait qu'un seul et même acte. Donc ça a commencé le jeudi saint avec la messe. Il y a eu le vendredi saint, très bien, avec la lecture de la Passion, avec la vénération de la croix du Christ, avec la communion des présanctifiés. Il n'y a pas de célébration de la messe, mais on a gardé des hosties de la veille consacrées pour pouvoir nous les donner en nourriture aujourd'hui. Au moment de cette épreuve terrible qu'est la mort de Jésus, l'Église nous donne encore accès à l'Eucharistie, comme c'est grand. Et donc, nous terminons l'office de la Passion dans le silence, voilà, en ayant célébré ce grand mystère. Jésus va reposer au tombeau. Le samedi saint, il ne se passe rien. Le samedi saint, ne faites pas vos courses. Le samedi saint, n'allez pas chez le coiffeur. Enfin, si vous avez pris un rendez-vous, tant pis, hein. Vous ferez attention l'année prochaine. Mais attendez, déjà que ça dure pas longtemps, si en plus le samedi saint, on fait comme si tout était normal, ben alors c'est fini, quoi. Voilà. Non, mais je suis taquin, je sais bien. Mais vivons le samedi saint puisque c'est la descente de Jésus aux enfers. Voilà. Et donc, on est en communion avec tous nos frères et sœurs qui sont privés du paradis parce qu'ils n'ont pas pu y entrer, parce que la porte n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte parce qu'on ne va pas par soi-même au paradis. On y est invité par Dieu. Donc les enfers, c'est la situation de tous les hommes et de toutes les femmes qui n'ont pas accès au paradis, non pas à cause de leur péché, mais parce que la porte n'est pas encore ouverte. C'est-à-dire, tous ceux qui ont vécu avant Jésus, évidemment, tous ceux qui ont vécu avant Jésus, mais aussi tous ceux qui vivront après Jésus et qui ne sont pas baptisés et qui n'ont pas connaissance de Jésus. Il faut bien que Jésus vienne les chercher pour les faire entrer au paradis. Et donc cette descente aux enfers, elle se continue aujourd'hui. Elle se continue au sens où Jésus, dans sa descente aux enfers, rejoint tous les hommes, toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas accès au paradis pour ouvrir les portes du paradis. Et ça, c'est le mystère du samedi saint. Un grand mystère. Il faut le vivre. Vous savez, moi, c'est un jour où j'aime bien penser aux frères et sœurs défunts de ma famille, aux personnes que j'ai aimées qui sont mortes. Voilà, je me dis, Jésus est venu les chercher pour leur ouvrir les portes du paradis et pour les faire entrer au paradis. Voilà, je pense à ça avec affection et avec confiance, parce que je me dis que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Donc il ne se passe pas grand-chose le samedi saint. Si, il y a l'office des ténèbres le matin, très bel office, comme ce matin, où on entendra cette magnifique homélie sur la descente aux enfers, une homélie du troisième siècle, je crois, extraordinaire, où on voit Jésus qui dit je viens vous chercher, moi qui étais le fils, je me suis fait l'esclave, et je viens vous chercher. Et vous savez ces icônes qui représentent Jésus descendant aux enfers, qui prend par la main Adam et Ève. Tac, tac, et puis il les prend pour les sortir. Génial. Est-ce que vous savez qu'à Jérusalem, la tradition veut que la croix sur le calvaire a été plantée à l'endroit où se trouve la tombe d'Adam. Le sang de Jésus sur la croix a coulé jusqu'à la tombe d'Adam. Voilà, ils ont été, eux aussi, Adam et Ève, ont été sauvés. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est une symbolique extraordinaire, vous comprenez ? Le salut, il est pour tous. Et il s'accomplit le samedi saint. Mais nous n'en restons pas là, puisque, évidemment, nous allons célébrer la victoire du Christ. Alors, la liturgie est très belle. Elle est extraordinaire. Elle est suggestive. Elle est faite pour nous faire entrer dans le mystère. On entre dans l'église qui est plongée dans le noir. Ouais, alors les gens qui s'assoient avant dans l'église pour être sûr d'avoir une place, c'est un peu dommage quand même. Parce que normalement, on est dehors, autour du feu, et que à partir de là, on entre, et qu'au fur et à mesure, on entre avec des cierges allumés. Voilà. Chaque année, c'est l'occasion pour les curés de se, de se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour faire sortir les gens? Je me rappelle une année, quand j'étais pas ici, mais dans une autre paroisse, à Fontenay-sous-Bois, j'arrive 20 minutes avant l'office, à 9h du soir, à 21h, et je vois par la porte de la sacristie, je vois qu'il y a de la lumière. J'entre dans l'église, tout était allumé, et la chorale était en train de répéter. Donc tout ce qu'on avait préparé pour que ce soit caché, pour que les gens le découvrent au moment de l'entrée dans l'église, ben tout était déjà éclairé, tout était déjà en pleine lumière. Et ça m'avait rendu un peu furieux, mais bon, voilà. Donc on entre dans une église qui est dans l'obscurité, et puis nous entrons, et là il va se déployer quelque chose de très beau. D'abord l'arrivée avec le cierge pascal qui est porté, qui est le symbole du Christ ressuscité, ce cierge pascal qu'on va encenser. Et puis il va y avoir une longue veillée avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous rappelle que ce qui s'est passé pour Pâques, en fait, avait été déjà prévu depuis le début. Ce qui est dernier dans l'accomplissement est premier dans l'intention. En fait, Dieu avait toujours déjà voulu cette résurrection de son Fils dans le mystère de Pâques. Et donc ce sont les lectures de la vigile pascale qui vont nous aider à entrer dans ce grand mystère. Et puis, va arriver le moment où on va chanter le gloire à Dieu. Alors vous allez me dire, on l'a chanté déjà hier. Ben oui, c'était le jeudi saint. Mais la nuit de Pâques, on va le chanter aussi, et puis si tout va bien, on fera sonner les cloches. Ils sont partis à Rome, vous savez. À Rome, en ce moment, il n'y a que des cloches. Les cloches sont parties là-bas. Et donc, on va chanter le Gloria. Ce qu'on n'a pas chanté depuis le début du carême. Papa, je ne veux pas l'entendre, quelle horreur. Je ne veux pas l'entendre. Nous allons le proclamer. Alors là, on va se lâcher. Je peux vous dire qu'on va se lâcher. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le chant de la résurrection, et donc on est heureux de le chanter. Donc on le chante, voilà. Et puis ensuite, je voudrais aussi vous dire très rapidement que ce Triduum pascal, qui se termine donc évidemment par la vigile pascale et par la messe le jour de Pâques, ce Triduum pascal, pourquoi il est important pour nous? Parce qu'il est l'accomplissement du temps du carême. Le temps du carême a été pour nous l'occasion de redécouvrir le fait que nous étions enfants de Dieu et que nous avions la grâce d'être baptisés. Eh bien, cette grâce que nous avons reçue d'être baptisés, nous allons la manifester la nuit de Pâques en professant notre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Croyez-vous en Jésus-Christ? Oh, mais on va pouvoir le faire. Ça va être magnifique. La première année où nous faisions ça au Sacré-Cœur, et c'était mon initiative, nous avions mis sur une feuille A4, vous savez, une feuille A4, A3, pliée en deux, toute la célébration de la vigile pascale. Très bien. Et donc, j'étais très content parce que c'était la première fois qu'on le faisait, et le recteur à l'époque m'a dit: « Oh oui, c'est une super idée, Hervé, bravo. » Donc on avait les textes, tout sur une feuille A3 pliée en deux. En début d'après-midi, le samedi saint, ces feuilles sont livrées par l'imprimerie. Oh, quelle émotion en voyant ces feuilles, quelle émotion! Et donc j'en prends une pour la regarder, pour la contempler, heureux de moi. Et alors je regarde, je tourne, et je vois: croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Je le rejette. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? Je le rejette. Je me dis, c'est pas possible. Ils sont pas possibles. Au lieu de mettre je crois, ils ont mis je le rejette. Oh là là. Et donc, il a fallu que, pendant toute l'après-midi, je dis d'aller dedans, de rayer, pour qu'ils aient pas ça sur leur feuille. Voilà. Donc, nous professerons notre foi. Et il n'y aura pas de baptême à Saint-Louis-d'Antin, mais vous savez que dans la France, il y aura plus de 10 000 baptêmes, et beaucoup dans le monde. Quelle grâce d'avoir ces baptêmes d'adultes. Quel bonheur. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que les gens ont rencontré Jésus. C'est pour ça qu'ils demandent le baptême. Vous comprenez, dans le même temps, vous pouvez avoir, hélas, ce qui se passe à Bétaram, et puis en même temps, vous avez des gens qui ont rencontré Jésus et qui se disent, ça vaut la peine d'être chrétien. Évidemment que ça vaut la peine. Voilà. Et donc nous aurons des baptêmes, pas ici, mais partout dans le monde, et donc nous serons unis à eux. Et puis nous chanterons, puis nous serons heureux. Et puis vous savez que c'est tellement important ce Triduum qu'il ouvre un, un, il ouvre une octave, un octave, l'octave de Pâques pendant 8 jours, c'est Pâques tous les jours. Voilà, je ne veux pas trop parler parce que je me rends compte que ça fait beaucoup de choses que je vous ai dites et vous devez être fatigué à la fin. En revanche, si jamais vous souhaitiez poser quelques questions par rapport à tout ce que j'ai dit, eh bien, je vous propose de le faire maintenant avec le même système, en parlant dans le micro qui vous sera tendu. Et je remercie encore celui qui fait micro Ferrer. Ça, micro Ferrer, vous savez, c'est dans, vous savez, dans les célébrations, vous avez les enfants de cœur, il y en a un qui est Cerro Ferrer, il y en a un qui est Turi Ferrer. Et maintenant qu'on a des micros, on dit un micro Ferrer. Merci beaucoup. Parlez bien parce que sinon j'entends rien du tout. Parlez dans le micro et parlez fort.
Il y a 2 ans que j'ai perdu mon petit frère, celui qui est directement après moi. Et il a été baptisé en même temps que moi. Et ils ont dit qu'on n'a pas trouvé son extrait de baptême. Et c'est vrai, il n'allait plus à l'église. Et donc l'Église a refusé de l'enterrer. Et ce n'est pas la première fois, il y a eu une petite sœur aussi qui a été baptisée. Là aussi, l'Église a refusé de lui donner, comment on dit, de lui. Oui, pas ça, mais pour l'enterrer, mon cher Hugo, la chorale, Anne-Marie et le tout autre. Et un autre frère qui a quitté l'église pour aller chez les évangélistes. Ma mère a eu 12 enfants, 4 sont morts. Le reste qui reste, ils sont tous chez l'évangéliste. Et je suis seule catholique parmi mes frères et sœurs. Et je ne sais pas pourquoi on refuse à la dernière minute de ne pas faire entrer un cercueil à l'église pour faire.
J'ai compris. Vous pouvez, c'est bon, je vous réponds. Alors d'abord, ce que vous vivez, c'est douloureux, évidemment. Donc c'est un exemple particulier qui est douloureux. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous savez que pour les protestants, on ne fait jamais entrer le cercueil dans l'église. Pour un protestant, on ne fait jamais entrer le cercueil dans l'église. Jamais. La deuxième chose, c'est que, rassurez-vous, Dieu est plus grand que ce que nous faisons sur la terre. Et que votre petit frère, il a pu partir au ciel sans problème. Ne vous inquiétez pas. Heureusement, il y a des gens qui vont mourir et qui ne seront jamais malheureusement enterrés parce que les conditions ne le permettent pas. Ça n'empêche pas Dieu de les accueillir. Hein. Vous savez, ce que nous vivons sur la terre, c'est une manière de manifester quelque chose. Mais fort heureusement, Dieu est plus grand que ses sacrements. Par exemple, il y a peu de gens qui meurent en recevant le sacrement l'extrême onction. Parce qu'en plus de ça, on dit « Oh là là, on va pas faire venir le prêtre, il va mourir, ça va le faire mourir ». Donc les gens ne font pas venir le prêtre. Mais c'est pas parce que les gens meurent sans l'extrême onction que pour autant ils vont pas au ciel, hein. Soyez en paix. Vraiment. Soyez en paix. Et restez catholiques, je vous en supplie. Restez catholiques. Avec toi, il rentre avec quoi? Eh bien, pas grand-chose parce que je ne suis pas orthodoxe. C'est pas une tradition catholique, donc je peux pas vous dire grand-chose. Malheureusement, je suis désolé. Ah, ça vient du fond, là. Bonjour. Ah, attendez, j'ai rien compris. Oui. Il n'y a pas de jeûne pendant la période de Pâques. Et je vous rappelle que, puisque vous parlez du jeûne, je rappelle que l'Église prévoit 2 jours de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint, et que beaucoup parmi vous, je pense, comme moi, n'y sont pas tenus en raison de leur âge. Donc, mais le Pâques est un temps de bénédiction et un temps de joie, et donc on ne peut pas jeûner alors qu'on est en train de se réjouir de la résurrection du Christ. Soyez en paix. Et encore une fois, le jeûne, il faut faire attention. Enfin, faire attention. Il faut faire attention au fait que beaucoup de gens sont attachés à jeûner, mais le jeûne peut porter sur d'autres choses que la nourriture, hein. C'est pas nécessairement la nourriture. Ça peut porter sur plein d'autres choses dont nous pouvons essayer de nous passer. On est focalisé sur la nourriture, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça. Ah ben non, il faut prier, bien sûr. Le silence, c'est surtout le silence extérieur. Il faut pas faire des choses qui vont nous distraire trop. Mais sinon, on peut prier, bien sûr, au contraire. La prière, c'est toujours quelque chose de bien. Rassurez-vous. Non, je parlais surtout le fait qu'il faut pas en faire un samedi comme les autres, quoi. Si on a l'habitude de faire les courses le samedi, peut-être que le samedi saint, il faut se dire, ben, je vais pas les faire aujourd'hui. Mais je dis ça trop tard, peut-être. Bien, eh bien écoutez, je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère avoir répondu à vos questions, j'espère que d'autres ne se posent pas. En tout cas, vivons unis ce Triduum Pascal qui est vraiment un joyau de la liturgie chrétienne. Et de ce point de vue-là, vous savez, on a vraiment des raisons profondes d'être heureux d'être catholique. Et d'être heureux de la liturgie de l'Église, qui est vraiment un trésor extraordinaire qui nous permet justement d'entrer dans cette méditation. Et puis, le fait de vivre profondément ce Triduum Pascal, c'est vraiment grandir dans l'intimité avec Jésus. Parce que le but de ces liturgies, c'est de nous unir à Jésus dans sa passion, dans l'offrande de sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et nul doute que vivre cela intensément est source de bénédiction pour chacun de nous. Merci pour votre présence et votre attention, et bon triduum.